Vous écoutez, on lit pour vous.
L'Ozempic fait aussi fondre l'impôt. Un texte de Marie-Ève Fournier paru le 20 avril 2025 dans La Presse. L'Ozempic n'est pas un médicament comme les autres. C'est aussi un phénomène culturel, une soi-disant solution miracle, une source de débat et d'inquiétude chez les médecins. On en parle de manière philosophique, sociale, médicale, éthique. La célèbre molécule s'invite même dans les débats concernant les impôts. Au bout du fil, une copine me demande si l'Ozempic donne droit au crédit pour les frais médicaux lorsqu'il est utilisé pour perdre du poids. Elle me résume une discussion entre amis pendant laquelle deux points de vue s'opposaient. D'un côté, certains ne voyaient pas pourquoi l'Ozempic, pris à des fins esthétiques, serait traité différemment par les autorités fiscales du Botox utilisé pour faire disparaître des rides. Après tout, les contribuables n'ont pas à financer des pertes de poids lorsqu'elles ne sont pas nécessaires pour régler un problème de santé. D'autres, au contraire, estimaient que le fisc doit se fier au jugement des médecins. Même si l'Ozempic n'est pas approuvé par Santé Canada pour perdre des kilos, s'il est prescrit, c'est qu'il est requis pour des raisons médicales. Les patients devraient donc bénéficier d'un crédit d'impôt. La question est pertinente dans le contexte où la popularité des molécules amaigrissantes explose. On peut aussi s'attendre à la création d'autres médicaments pouvant être utilisés à des fins esthétiques comme le Latissa, pousse des cils, ou le Propecia, pousse des cheveux. À la régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ, les médicaments favorisant la perte de poids, Ozempic, Rybelsus, Victoza et Trulicity, sont remboursés uniquement aux personnes diabétiques de type 2 qui répondent à divers critères de remboursement. De leur côté, les autorités fiscales n'ont pas les moyens de savoir le motif derrière chaque prescription. Ce n'est pas écrit sur les factures. Ainsi, vérification faite, les médicaments qui favorisent la perte de poids donnent tous droit à un crédit d'impôt pour une raison bien simple. Ils sont prescrits par un professionnel de la santé. Seules les substances pouvant être achetées sans ordonnance, aspirine, laxatif, supplément de fer, vitamines, sont exclus. Les Québécois traités à l'Ozempic pour leur obésité doivent débourser de leur poche environ 2 900 par année, tandis que la facture de ceux qui prennent le Wegovy, spécifiquement créé pour la perte de poids, grimpe à 5 000. Cette facture donne droit à un crédit non remboursable de 15 % au fédéral et de 20 % à Québec, dans la mesure où ces frais dépassent 3 % du revenu net individuel à Ottawa, familial à Québec. Pour l'État, le crédit pour frais médicaux coûte 2,15 milliards au Canada et près de 1,1 milliard à Québec, selon la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Bref, ce n'est pas qu'une affaire de santé, mais aussi de gros sous. La question est maintenant de savoir s'il est fréquent au Québec que des médicaments amaigrissants soient pris pour des raisons purement esthétiques, comme c'est le cas aux États-Unis, surtout à Hollywood. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de médecins qui prescrivent ça à des personnes qui ont un IMC de 24 et qui veulent être plus minces. Si ça arrive, c'est une rareté, m'a dit la docteure Marie-Philippe Morin, spécialiste en médecine bariatrique à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, IUCPQ. Dans les conférences qu'elle donne sur le sujet, elle sent que les médecins sont plutôt frileux face à l'Ozempic et les autres médicaments du genre. Dans cette affaire, ce qui peut alimenter la confusion, c'est que les assureurs privés ne remboursent généralement pas l'Ozempic lorsqu'il est prescrit à des personnes qui ne souffrent pas de diabète de type 2. Cela peut donner l'impression que le médicament est parfois prescrit pour des raisons moins sérieuses. Or, il n'y a pas de lien à faire entre les règles des assureurs, qu'ils soient privés ou qu'il s'agisse de la AMQ, et celles de l'impôt. D'ailleurs, les traitements de massothérapie sont remboursés par les assureurs, mais ils ne donnent pas droit au crédit d'impôt pour autant. On peut même joindre sa facture d'assurance voyage couvrant les soins médicaux à sa déclaration de revenus, ce qui est très peu connu, note André Boulet, fondateur et associé principal de Boulet Morin CPA. Il en va de même pour sa prime d'assurance maladie collective. Pour savoir si un soin de santé ou une intervention médicale donne droit au crédit d'impôt, André Boulet regarde si la TPS et la TVQ ont été facturées au client par le médecin ou le dentiste. Si tel est le cas, c'est la preuve qu'il s'agissait d'un soin esthétique, dit-il. On peut penser, par exemple, à une liposuction, une chirurgie mammaire non médicalement requise ou un blanchiment de dents. Surprise! Les frais liés à un traitement de fécondation in vitro ou d'insémination artificielle n'ont évidemment rien d'esthétique, mais sont traités de la même manière par l'impôt. Pour les services rendus par des praticiens, il faut connaître la liste de ceux qui sont reconnus par Québec et Ottawa, et savoir que cette liste va changer en janvier 2026. Dans son budget de mars 2025, le ministre des Finances, Éric Girard, a annoncé que les soins prodigués par des praticiens non régis par le Code des professions du Québec ne seront plus admissibles au crédit d'impôt. La modification concerne les homéopathes, naturopathes, ostéopathes et phytothérapeutes. Au fond, l'enjeu n'est pas que fiscal. Il est moral, médical et sociétal. Qu'est-ce qu'un soin ou un médicament nécessaire? Qui mérite l'aide de l'État? Avec l'essor des traitements à usage multiple, ces questions risquent de revenir souvent, et les réponses devront se préciser. C'était L'Ozempic fait aussi fondre l'impôt, un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 20 avril 2025 dans La Presse.
C'est « Seuls 10 véhicules sont fabriqués au Canada », un texte de Nadine Filion, paru le 4 avril 2025 dans « Protégez-vous ». Tarif pas tarif, bonne nouvelle pour les Québécois qui cherchent à acquérir un véhicule neuf. Les 10 modèles « Made in Canada » comptent parmi les plus populaires auprès des acheteurs de la province et plusieurs existent en version hybride ou électrifiée. Ça y est, le couperet est tombé. Depuis minuit hier, les États-Unis imposent une surtaxe de 25 % sur les autos étrangères. En vertu de l'accord de libre-échange nord-américain, on ne sait trop jusqu'à quel point les véhicules fabriqués au Canada et au Mexique sont considérés comme des autos étrangères. On ne sait pas non plus s'ils seront tarifés dans leur ensemble ou uniquement sur leur contenu non états-unien. L'an dernier, le Canada a produit près de 1,5 million de véhicules. Selon les marques, de 80 à 90 % de ceux-ci ont pris le chemin des États-Unis. Le Canada vient de fortement réagir. Le premier ministre, Mark Carney, a annoncé des contre-tarifs qui égalent la pénalité américaine, 25 % sur les véhicules fabriqués aux États-Unis qui ne respectent pas les accords de libre-échange. Cette mesure ne concerne pas les pièces automobiles. Ce qui signifie que les véhicules fabriqués en sol américain qui traversent nos frontières depuis hier verront leur prix exploser. Une Toyota Camry de base fabriquée au Kentucky coûtera jusqu'à 8 750 $ de plus. Un Ford F-150 assemblé au Michigan et au Missouri passera de 51 500 $ à 64 375 $ environ. Rappelons qu'il s'agit du véhicule le plus vendu au Canada et au Québec. Achat local. les Québécois ont leur mot à dire. L'an dernier, les Canadiens ont acheté 1,86 million de véhicules neufs. La moitié de ceux-ci ont été fabriqués aux États-Unis. Le quart a été construit soit au Mexique, soit au Canada. Le reste provient du Japon, de la Corée du Sud, de l'Europe et, dans une très petite mesure, de la Chine. Les consommateurs ont évidemment leur mot à dire à travers les choix qu'ils font. On le voit avec la chute draconienne, 70 % des réservations aériennes du Canada vers les États-Unis pour l'été prochain. Tout comme ils ont troqué leur soupe Campbell pour une boîte d'Elmer, les acheteurs de véhicules neufs peuvent favoriser les modèles automobiles fabriqués au Canada. Plus que jamais, leur choix compte dans la protection des emplois et la contribution directe à l'économie du pays. Bonne nouvelle, même s'ils se comptent sur les doigts des deux mains, les véhicules fabriqués localement ont l'avantage de figurer parmi les plus populaires auprès des acheteurs canadiens et québécois. Certains de ces modèles trônent même, année après année, en tête des palmarès de la fiabilité, de la satisfaction client et de la meilleure valeur de revente. Sans plus tarder, voici la liste des véhicules qui sont actuellement fabriqués au Canada et qui ne souffriront pas de l'imposition des tarifs. Cela dit, si les politiciens ne s'entendent pas pour faire disparaître les droits punitifs respectifs des deux côtés de la frontière, attendez-vous à ce qu'à plus ou moins long terme, la liste des véhicules fabriqués au pays soit modifiée, voire bonifiée avec de nouveaux modèles. VUS, Toyota RAV4 à essence et hybride. De loin, Toyota est le plus important fabricant de véhicules au Canada, avec trois usines établies dans le sud de l'Ontario, à Cambridge et à Woodstock, le constructeur japonais a produit 368 577 unités de son populaire VUS compact l'an dernier, en version à essence et hybride. Rappelons que le Toyota RAV4 a été le deuxième véhicule le plus vendu au Canada et au Québec l'an dernier et qu'il figure dans la liste des 31 modèles 2025 recommandés par Protégez-vous, APA. Si les installations ontariennes assurent l'assemblage du RAV4 depuis 2007, elles ne fabriquent toujours pas le Toyota RAV4 PHEV. Mais comme celui-ci est construit au Japon, les tarifs américains ne devraient avoir aucune incidence sur le VUS hybride rechargeable distribué au Canada. Honda CR-V, à essence et hybride. Autre VUS populaire auprès des Québécois, et second véhicule le plus assemblé au Canada, le Honda CR-V, qui compte 214 095 unités fabriquées à Alliston. Le VUS compact à essence de Honda y est construit depuis 2012 et sa nouvelle version hybride l'est aussi depuis l'an dernier. Tout comme le Toyota RAV4, le Honda CR-V est l'un des 31 modèles 2025 recommandés par Protégez-vous APA. Lexus RX, à essence et hybride. Le Lexus RX a l'honneur d'être le premier modèle hybride du constructeur à être fabriqué hors Japon depuis l'année 2000. En 2024, les chaînes de montage ontariennes ont construit 111 220 exemplaires du Lexus RX en version à essence et hybride. Lexus NX, à essence et hybride. Le jumeau de luxe du Toyota RAV4 est évidemment assemblé dans le sud de l'Ontario et lui aussi dans ses versions à essence et hybride. L'an dernier, les travailleurs canadiens ont assemblé 53 787 Lexus NX. Vous écoutez, ces seuls 10 véhicules sont fabriqués au Canada. Un texte de Nadine Filion, paru le 4 avril 2025 dans Protégez-vous. Voiture. Honda Civic, à essence et hybride. Honda a été le premier constructeur japonais à implanter des installations manufacturières au Canada. C'était en 1986. Établi à Alliston, à une centaine de kilomètres au nord de Toronto, elle fabrique des Honda Civic depuis près de 40 ans. L'an dernier, l'usine a assemblé 206 455 berlines Honda Civic en version à essence et hybride. La variante sport SI est aussi fabriquée au Canada, mais celle de performance type R est encore fabriquée au Japon. La Honda Civic, qui figure parmi les voitures préférées des Québécois, est l'un des 31 modèles 2025 recommandés par Protégez-vous APA. La voiture compacte a également remporté le titre de meilleure voiture canadienne de l'année 2025, décerné par l'Association des journalistes automobiles du Canada. Dodge Charger électrique. La Dodge Charger est fabriquée à l'usine Stellantis de Windsor en Ontario, mais pour le moment, uniquement en configuration deux portes et en version électrique. À venir éventuellement, une version berline à quatre portes et aussi des modèles à essence. Notez que la Dodge Charger de génération précédente était assemblée à l'usine de Brampton, en banlieue ouest de Toronto, mais ses installations manufacturières de Stellantis sont, depuis un an, en attente d'un nouveau modèle à construire. La rumeur parle d'un Jeep Compass, à essence, hybride et électrique. Camionnette. Chevrolet Silverado, à essence. Les seules camionnettes fabriquées au Canada sont celles du constructeur américain General Motors. Les Chevrolet Silverado sont assemblées à l'usine ontarienne d'Oshawa, que l'on peut apercevoir aux abords de l'autoroute 401, une cinquantaine de kilomètres à l'est de Toronto. La Chevrolet Silverado EV électrique est cependant assemblée à Détroit, au Michigan. L'an dernier, les travailleurs canadiens ont assemblé 162 190 unités de la camionnette américaine. Pas de chance pour les acheteurs qui ne veulent pas encourager une marque américaine, tous les autres pick-up destinés au marché nord-américain sont fabriqués aux États-Unis. C'est le cas même pour les camionnettes japonaises que sont les Toyota Tacoma, Tundra, Texas, et Nissan Frontier, Titan, Mississippi. Fourgonnette. Chrysler Pacifica, à essence et rechargeable. La fourgonnette Chrysler Pacifica est construite à Windsor, dans le sud de l'Ontario. Les installations de Stellantis, auparavant FCA, fabriquent des véhicules sans interruption depuis 1928, soit depuis près d'un siècle. Les travailleurs ontariens ont assemblé l'an dernier 107 668 unités de la Chrysler Pacifica en version à essence et rechargeable. Il s'agit donc du seul véhicule plug-in fabriqué au Canada. Chrysler Grand Caravan, à essence. L'usine de Windsor assemble aussi la Chrysler Grand Caravan. Le même modèle est appelé Chrysler Voyager sur le marché américain. L'an dernier, les travailleurs ontariens ont fabriqué 51 502 unités de la Grand Caravan. Depuis la création des minivans, il y a 40 ans, l'usine de Windsor a fabriqué plus de 15 millions de fourgonnettes pour l'Amérique, mais aussi pour le marché mondial. Texte en italique. À la suite de l'imposition des tarifs et officiellement pour démêler tout ça, la maison mère de Stellantis vient d'annoncer mettre sur pause pendant deux prochaines semaines la production automobile à son usine de Windsor. Fin du texte en italique. Chevrolet BrightDrop électrique. Outre la Dodge Charger électrique, un autre véhicule électrifié est fabriqué au Canada à l'usine d'Ingersoll de General Motors, située à 150 km à l'ouest de Toronto. Les fourgons commerciaux BrightDrop. Les médias spécialisés en automobile rapportent que devant des ventes anémiques, l'usine n'aurait produit que 1500 de ses véhicules l'an dernier, le prix du fourgon électrique fait également l'objet d'importantes réductions. Comment savoir où le véhicule a été assemblé? Le ou les premiers caractères du NIV, pour numéro d'identification du véhicule, informent sur le pays d'assemblage final d'une automobile. Le NIV d'un véhicule se retrouve sur une plaque métallique à la jonction du pare-brise et du tableau de bord, ainsi que sur l'étiquette collée au montant intérieur de la portière côté conducteur. Vous pouvez également le retrouver sur le certificat d'immatriculation. Par exemple, un véhicule commençant par 2HGFB a été fabriqué au Canada à cause du 2 en début de NIV. 2 Canada, 3 Mexique, 1, 4, 5, 7F à 7Z ou 70 États-Unis. Autre NIV, J Japon, KL Corée du Sud, L Chine, SA à SM Royaume-Uni, W Allemagne, YA à YE, Belgique, YS, Suède, ZA, Italie. C'était c'est « Seuls 10 véhicules sont fabriqués au Canada », un texte de Nadine Filion paru le 4 avril 2025 dans « Protégez-vous ».
Cathy Morey, Sublimer l'imaginaire, une entrevue réalisée par Alexandra Mignot, paru le 7 avril 2025 dans Les Libraires. Cathy Morey a illustré plusieurs livres pour la jeunesse, notamment Le sceau de David d'Alan Nouveau, Monsieur Ed, Renaud en hiver de Véronique Boisjoli, La pastèque et Dans mon livre de cœur de Martine Audet, La courte échelle. Dernièrement, elle a signé les images d'un fantôme dans le jardin de Keogh McClear, comme des géants. Cet album, aux couleurs oniriques, empreint de tendresse, explore la mémoire, le passage du temps, les traces et les souvenirs qu'on laisse alors qu'un petit garçon passe de beaux moments dans le jardin de son grand-père, là où il y avait jadis un ruisseau. L'artiste dépeint avec finesse les mondes imaginaires et les détails qui donnent vie aux histoires. Qu'aimez-vous particulièrement dans le fait d'illustrer des livres? Ce que j'aime, c'est monter un monde de toutes pièces. Un monde doit exister en quelques pages, et cela me demande une rigueur particulière que j'affectionne. Chaque livre me demande de développer un langage pictural propre à son histoire. Lorsque je conçois les images pour un livre, je pars à la découverte. J'aime concevoir ce vocabulaire qui consiste en des sujets, des couleurs, des formes, des cadrages. Et je laisse les choses se brasser et puis se poser. Je dois souvent défaire mes acquis et trouver des solutions qui sont nouvelles pour moi. Je trouve ce processus assez enivrant. Est-ce un grand défi que de mettre en image les mots de quelqu'un d'autre? En effet, la première rencontre avec un texte est souvent une sorte de choc. Je perds momentanément mes repères et c'est en quelque sorte une petite panique. Je laisse la relecture et le temps me décrisper. Une fois assoupli, je me retrouve et ensuite les mots et moi pouvons faire notre chemin ensemble. Quels sont les thèmes que vous préférez exploiter dans votre travail? Ce que je préfère ne figure pas beaucoup dans mon travail jusqu'à présent. Mais peut-être que cela changera avec mon dernier livre, Un fantôme dans le jardin, avec Keogh McClear. J'aime les thèmes imaginaires, les contes, les légendes, les mythes, etc. J'aime que le livre soit un espace pour le rêve et les questions sans réponse définitive. Que vouliez-vous raconter comme histoire avec votre image de la couverture de ce numéro? Pour moi, elle représente une rencontre du monde intérieur et du monde extérieur, ici évoquée par la goutte froide perturbatrice. Sans jugement, sans leçon, je propose une réflexion plus ou moins large ou simplement une appréciation de son dénouement comique. On peut lire dans votre biographie que vous tirez votre inspiration des histoires de fantômes et des anciens livres pour enfants remplis de non-dits. En quoi les non-dits vous parlent-ils? Petite, j'adorais les histoires bizarres. Je percevais le monde comme une grosse chose imposée et banale, alors je rêvais de choses impossibles. Aujourd'hui, j'aime revisiter cet état d'esprit, j'y puise ma créativité. J'espère inspirer les gens comme j'ai été inspirée. L'album « Le sceau de David » d'Alan Wu, que vous avez illustré, aborde notamment le sentiment d'appartenance, la confiance en soi, l'acceptation et l'amitié. En quoi ces thèmes vous inspirent-ils? C'est un sujet universel que de se sentir à l'écart dans un nouvel endroit. J'avais envie d'exprimer avec tendresse ce sentiment qu'on a peut-être tous eu lors d'un premier jour d'école, comme David. Je l'imaginais se sentir comme une petite miette parmi des confettis. Et par de petits gestes persévérants, il finit par s'accrocher aux autres et appartenir au groupe. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans l'histoire d'un fantôme dans le jardin que vous avez illustré? L'idée est venue de ma mère. Selon elle, une invitée séjournant chez mes parents s'était levée en pleine nuit et, à sa grande stupeur, elle avait aperçu une silhouette spectrale à travers la fenêtre. Elle affirma l'avoir vue traverser la pelouse, se faufiler entre les buissons, puis disparaître en passant à travers le mur de la voisine. Fascinée par cette histoire, j'ai écrit à Kyo et la graine était semée. Après un séjour à Rome, vous avez entamé un projet sur la mythologie grecque et l'histoire romaine. Pouvez-vous nous parler de ce projet d'illustration? Rome change tout le monde. J'y ai passé 3 mois en résidence avec mon conjoint. J'en ai profité pour renouer avec mon amour de l'Antiquité et de la mythologie. Nous étions dans un contexte particulier, entourés de chercheurs et d'autres artistes. Les journées étaient remplies de visites de sites archéologiques, de conférences et de conversations. Les images que j'ai produites sont en quelque sorte les manifestations en fin de journée, comme des impressions sur la rétine, après avoir été ébloui. Quels sont les artistes visuels que vous admirez? En peinture, je peux passer des heures à regarder le travail de Fra Angelico. Il a une manière de m'envoûter et de me faire entrer dans son œuvre. Je suis fascinée par le détail de son travail, par ses mises en scène, son utilisation de la couleur et de la lumière. Il parvient à me donner à la fois une sensation de confinement et un sentiment d'infini. J'aime beaucoup la sculpture, et particulièrement la sculpture grecque archaïque. J'aime la simplicité des formes, leurs galbes subtiles, leurs drapés assurés qui me font penser que ces statues respirent et s'animent lorsque je leur tourne le dos. J'aime leurs visages durs et leurs regards affolés. C'était Cathy Murray, Sublimer l'imaginaire, une entrevue réalisée par Alexandra Mignot, parue le 7 avril 2025 dans Les Libraires.